Bonjour chers auditeurs, vous écoutez l'émission La Bible en question. Au micro, Catherine Mann et Anne-Marie Arbitre. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Catherine, bonjour à tous, ravie d'être avec vous.
Alors cette année, nous nous sommes attelés à une lourde tâche, celle de mieux comprendre un monument du Nouveau Testament, c'est-à-dire l'épître de Saint Paul aux Romains, qui est une épître aussi importante que compliquée. Nous avons déjà terminé la lecture de la première partie, les chapitres 1 à 8, qui nous ont montré l'égalité de tous les hommes, juifs ou païens, qui, nous dit saint Paul, sont tous soumis au péché et ne pourront obtenir la justification que par la foi au Christ et à son œuvre de rédemption. Et le chapitre 8 a développé le thème de l'Esprit-Saint, dont les croyants ont reçu les prémices, et qui les conduira vers la vie éternelle. Puis, le chapitre 8 s'est terminé sur une admirable hymne à l'amour de Dieu, avec cette magnifique conclusion de saint Paul, « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Nous allons donc aborder aujourd'hui l'ensemble formé par les chapitres 9 à 11, qui font un tout, autour du thème d'Israël et de sa place dans l'histoire du salut. En général, les exégètes sont un peu perplexes sur les liens existants entre ces trois chapitres et l'ensemble de la lettre aux Romains. Pour ma part, je remarque au moins un tout petit lien, c'est le cri du cœur de Paul au verset 3 du chapitre 9 qui dit « Je souhaiterais être moi-même séparé du Christ » pour mes frères, mes parents, selon la chair, etc.
Quel drôle d'enchaînement quand même. Le chapitre 8 disait, après une belle démonstration, que, je cite saint Paul, « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu ». Et voici Paul qui se dit prêt à être séparé de Dieu par solidarité avec Israël. Mais cette réaction de Paul n'est pas tellement inhabituelle finalement, car depuis le début de l'épître, nous voyons qu'il fonctionne un petit peu par association d'idées, et pas toujours selon notre logique, souvent par opposition, contraste, paradoxe. Je trouve que la manière dont Paul relie ces thèmes me fait plutôt penser à une conversation familière où l'on passe facilement d'un sujet à l'autre, un petit peu comme on dit du coq à l'âne, juste parce qu'un mot vous fait penser à quelque chose d'autre. Donc, en parlant de son attachement total à Dieu, Paul a pensé aussitôt à son attachement profond et viscéral pour son peuple, au point qu'il est prêt à être séparé de Dieu pour aider ses frères qui ont refusé d'accepter le Christ. Alors, preuve que malgré tous les reproches qu'il a pu leur faire, depuis le début de sa lettre, il ne renie en rien son appartenance à Israël. Mais il se soucie avant tout de leur salut, ce qu'il va faire tout au long donc de ces trois chapitres que nous lisons aujourd'hui.
Voilà, le chapitre 9 donc commence par le déchirement de Paul entre sa foi au Christ et son attachement à ses frères juifs. Paul ne comprend pas que ceux qui avaient bénéficié des promesses de Dieu, des alliances, de la loi et du temple, ont pu repousser le Messie qui pourtant était né parmi eux. Et Paul se dit que, pour autant, le projet de Dieu pour Israël n'a pas forcément échoué, parce que la promesse se réalise par ceux qui y ont répondu. Ce ne sont pas tous les fils d'Israël, mais au moins une petite partie, celle qui a accueilli le Christ Messie. Mais saint Paul va chercher un autre argument, qui est le thème des deux frères. Un thème qui revient souvent dans les Écritures, comme Jacob Ésaü ou Ismaël Israël, quand le cadet va prendre la place de l'aîné. Paul se sert de cet exemple biblique donc pour faire comprendre que l'héritage des promesses de Dieu n'est pas le simple fait d'être du même sang, mais se trouve d'abord dans l'adhésion véritable du cœur par la foi. Et nouvel argument de Paul, celui de la miséricorde de Dieu, qui accorde sa grâce à qui il veut, et qu'après tout, personne ne peut discuter cela, ni contester la volonté de Dieu.
Pour ce qui est de la vraie filiation, qui doit venir d'un engagement personnel, cela me semble quand même un bon argument. Après tout, c'est la même chose pour nous, les chrétiens. Il ne nous suffit pas d'être baptisés pour que le salut fasse son chemin en nous un petit peu magiquement. Il faut aussi s'impliquer et répondre consciemment à la grâce du sacrement. Alors, par contre, l'argument du choix de Dieu, qui, je cite saint Paul, fait miséricorde à qui il veut, donc ça c'était toujours au chapitre 9, bien sûr, verset 18, cet argument-là me paraît plus étrange. Cela nous présente Dieu comme un être capricieux, aux décisions arbitraires, et cela met un peu mal à l'aise. Saint Paul a beau dire qu'il n'y a aucune injustice en Dieu, si la grâce de Dieu ne dépend pas du tout des œuvres et des actes du bénéficiaire, mais seulement du bon vouloir de Dieu, l'idée de justice me semble un petit peu malmenée ici, du moins du simple point de vue humain et concret. Car notre idée de la justice est bien que l'on est récompensé pour nos bonnes œuvres et, au cas contraire, puni. Or, Paul va développer ce thème de la miséricorde jusqu'à la fin du chapitre 9, en insistant encore sur la totale gratuité.
Oui, je suis d'accord qu'il n'est pas facile de comprendre ce thème du choix de Dieu, qui traverse d'ailleurs tout l'Ancien Testament. Pourquoi Dieu préfère-t-il Abel à Caïn? Pourquoi a-t-il choisi David parmi tous les autres fils de Jessé? Si ça ne dépend pas de la volonté ou des efforts de l'homme, on comprend que cela puisse en rendre grognon quelques-uns qui se sont sentis frustrés. Je pense par exemple à la parabole dans l'Évangile, la parabole du fils prodigue, où la miséricorde du père pour le fils cadet qui a dilapidé sa fortune, mais franchement en colère le fils aîné qui s'était lui parfaitement comporté et resté fidèle. Et je comprends ce fils aîné. Mais enfin, c'est bien de miséricorde qu'il s'agit, et on doit apprendre à se réjouir du bien qui est fait à un autre, même s'il nous semble qu'il ne l'avait pas mérité. Et surtout, saint Paul dit dans son chapitre 9, verset 20 et suivant, que je vous lis, « Qui es-tu donc, homme, pour entrer en contestation avec Dieu ? L'ouvrage va-t-il dire à l'ouvrier, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'est-il pas maître de son argile pour faire de la même pâte tel vase d'usage noble, tel autre d'usage vulgaire ? Voilà la citation, mais si je la transpose en français d'aujourd'hui, moi je l'entends un peu comme « Mêlez-vous donc de ce qui vous regarde ». Vous écoutez Radio Grand Ciel, l'émission La Bible en question, et nous parlons de l'épître de saint Paul aux Romains, dont nous terminons la lecture du chapitre 9. Nous disions avant la pause qu'il ne nous est pas tellement évident de comprendre l'argument de Paul qui dit que la miséricorde de Dieu est totalement sans rapport avec les efforts de l'homme, puisque le salut est offert par grâce, même, dit-il, à ceux qui ne l'attendaient pas. Je vous lis par exemple les versets 30 à 32 du chapitre 9. Des païens qui ne recherchaient pas la justice l'ont reçue. J'entends la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui recherchait une loi pouvant procurer la justice, est passé à côté de la loi. Pourquoi ? Parce que cette justice, il ne l'attendait pas de la foi, mais pensait l'obtenir des œuvres. Voilà donc cette opposition œuvre et foi, et nous trouvions difficile d'admettre ce qui nous apparaissait dans un premier temps comme un manque de justice. Mais cela nous renvoie au fait qu'on ne peut pas comprendre les décisions de Dieu avec notre petit esprit et sa petite comptabilité un peu mesquine. Dieu, lui, est souverainement libre et au-dessus de tout ça, et nous n'avons pas les moyens de discuter ses choix.
Et non, oui, oui. Nous ne pouvons que constater ce qui existe. Et c'est un fait que nous sommes tous différents, avec vraiment des vies inégales. Certains sont heureux, ont de la chance, tout leur réussit. Et d'autres vivent dans de terribles difficultés, subissent l'engrenage des problèmes, finissent quelquefois dans la misère, la souffrance. Et pourquoi ? À qui la faute ? Est-ce une preuve de l'injustice de Dieu ? Ou bien le simple déploiement de sa volonté de créer des différences, une multiplicité et une diversité de possibilités sur lesquelles nous n'aurons jamais vraiment la maîtrise ? Et en effet, c'est comme ça. De même que tous les malades ne sont pas guéris à Lourdes, hein, mais seulement quelques-uns, que dans l'Église, tous ne sont pas appelés au même ministère, ou encore dans la nature, hein, y a des roses, des orchidées, mais aussi des pâquerettes, des pissenlits. Hein, mais ce qu'il faut voir, c'est que Dieu aime pareillement toutes ces créatures dans leur diversité, et qu'il est souverainement libre. Donc il fait miséricorde à qui il veut. Voilà, Paul nous le redit et redit, et notamment donc dans ce chapitre 9, verset 15, en citant d'ailleurs un passage du livre de l'Exode. Là.
Oui, en tant que chrétien, nous serions malvenus de critiquer cette miséricorde de Dieu, même si nous ne la comprenons pas, puisque nous en sommes les premiers bénéficiaires. Nous avons hérité par pure grâce des promesses que Dieu fit au peuple d'Israël, sauf bien sûr la nécessité de la foi au Christ. Comme le disent quelques versets du chapitre 10 où nous sommes arrivés, je vous lis le verset 9 de ce chapitre 10. « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Et un peu plus loin, versets 12 et 13, « Ainsi, il n'y a pas de différence entre Juifs et Grecs. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et je fais remarquer qu'il s'agit là encore d'une citation de l'Ancien Testament qui est tirée cette fois du livre du prophète Joël. En fait, saint Paul ne fait pas trois phrases sans faire une citation de l'Écriture. Il s'appuie dessus sans arrêt.
Oui, dans ces chapitres-là, on les retrouve.
Mais ici, c'est intéressant de noter que l'essentiel pour devenir chrétien tient en trois verbes. Croire, affirmer et invoquer. C'est tout. Et finalement, c'est ce que nous faisons dans nos Eucharisties. Il me semble donc important qu'on puisse s'insérer dans les rites que propose l'Église, qui concernent tout ce qui est juste nécessaire pour être chrétien.
Je crois en effet que pour vivre en chrétien, il faut entrer dans une dynamique d'actes et de paroles, dont les messes hein, sont le cœur. Parce qu'il y a toute une pédagogie par le rite, hein, au-delà même de toute compréhension intellectuelle. La foi, l'amour, la vie hein, ne demandent pas forcément qu'on comprenne tout d'abord. On comprend quelquefois, hein, pas toujours, petit à petit, et on est transformé progressivement. Mais dans le texte de Paul que nous lisons, nous voyons justement que les Juifs résistent à cette proposition. Alors, trop simple, peut-être, hein, donc cette proposition du salut par la foi. Et Paul se fait beaucoup de soucis à leur sujet. Je vous lis le verset 16. Donc là, nous sommes toujours au chapitre 10. mais tous n'ont pas obéi à l'évangile. Et un petit peu plus loin, versets 17-18, la foi vient de la prédication, et la prédication, c'est l'annonce de la parole du Christ. Je demande alors, n'aurait-il pas entendu ? Et encore un petit peu plus loin, verset 19, Israël n'aurait-il pas compris ? Cette incompréhension des Juifs est la grande souffrance de Paul, hein, qu'il tente d'expliquer à coups de citations du prophète Isaïe, dont celle qui achève le chapitre 10 hein, et qui semble la plus évidente. Donc il reprend Isaïe chapitre 65, verset 2. « Tout le jour, j'ai tendu les mains vers un peuple indocile et rebelle. » Et donc c'est sur cette constatation de l'insoumission de la majorité d'Israël que Paul rebondit au chapitre 11 sur une nouvelle question. Dieu aurait-il rejeté son peuple ?
Oui, c'est le chapitre 11 qui est le sommet de la réflexion de Paul sur le rapport entre les chrétiens et les juifs. C'est un vrai chef-d'œuvre de subtilité dans ses raisonnements, mais qui du coup demande beaucoup d'attention de la part des lecteurs pour en saisir toute la portée. D'abord, Paul précise qu'il n'y a pas vraiment échec de la promesse de Dieu, puisque une partie des Juifs a bien reçu l'Évangile et le salut par la foi au Christ. Lui-même en est un exemple vivant. On pourrait donc se contenter de cela, mais Paul va plus loin. Ces Juifs qui refusent le Christ, n'était-ce pas déjà prévu par Dieu pour que cela serve dans son plan de salut pour toute l'humanité ? Eh bien oui, répond-il. Parce que leur défaillance, la défaillance des Juifs à leur destin, permet aux païens d'accéder au salut. Ce qui fait dire à Paul que forcément, ce transfert de la grâce ne peut pas s'arrêter là. Et que, alors ça c'est, pour moi c'est très étonnant, mais enfin, que par jalousie, Israël finira par se réconcilier avec Dieu. Et je vous lis ce passage qui est, me semble-t-il, incroyable. Chapitre 11, versets 11 et 12. « Je demande donc, est-ce pour une chute définitive qu'ils ont trébuché ? Certes, non. Mais grâce à leur faute, les païens ont accédé au salut pour exciter la jalousie d'Israël. Or, si leur faute a fait la richesse du monde et leur déchéance la richesse des païens, que ne fera pas leur pleine participation ? Vous écoutez Radio Grand Ciel, l'émission La Bible en question. Et nous réfléchissons avec saint Paul dans sa lettre aux Romains sur le problème du salut des Juifs au chapitre 11, où nous sommes arrivés à présent au verset 13 que je vous lis ainsi que le 14. Saint Paul reprend sa réflexion sur le salut d'Israël. Je vous le dis donc à vous les païens, dans la mesure même où je suis moi apôtre des païens. Je manifeste la gloire de mon ministère dans l'espoir d'exciter la jalousie de ceux de mon sang et d'en sauver quelques-uns. Encore une fois, donc, Paul évoque son désir de rendre les Juifs jaloux des pagano-chrétiens. Ce n'est donc pas une parole en l'air, puisque elle revient. Cela lui paraît vraiment un bon moyen d'évangéliser ses frères juifs. La jalousie, pourquoi pas, après tout, si ça marche. Mais si on voulait utiliser cette tactique aujourd'hui, il faudrait arriver à vraiment faire envie pour qu'on souhaite nous ressembler. Ce qui n'est pas toujours évident.
Pas toujours.
Mais, enfin, revenons au texte. Ici, saint Paul veut surtout utiliser le thème des deux frères rivaux de l'Ancien Testament. Les frères adversaires, qui sont ici les Juifs face aux pagano-chrétiens, mais aussi aux judéo-chrétiens, forcément.
Ce qui ne clarifie pas vraiment le débat. Hein. Mais nous arrivons heureusement à un passage qui est parmi le plus connu de cet épître aux Romains. Il s'agit de la référence à l'olivier franc et l'olivier antéogreffé. Sauf qu'il faut de la souplesse pour comprendre le raisonnement de Paul. Parce que normalement, on greffe un olivier franc sur l'olivier sauvage. Mais ici, c'est le contraire. L'olivier franc qui porte la racine, donc c'est Israël. Alors que l'olivier sauvage, ce sont les païens qui ont été greffés sur Israël. Et les versets 17 et 18 nous le disent. Je vous les lis. « Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, tandis que toi, olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes de l'olivier pour avoir part avec elle à la richesse de la racine, ne va pas faire le fier aux dépens des branches. Ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. » Cette remarque de Paul s'adresse donc aux païens, devenus en quelque sorte juifs par le Christ, mais qui devaient à cette époque en tirer de l'orgueil, se croyant sans doute supérieurs aux juifs.
Oui, cela signifie que si Dieu s'est détourné d'une large partie d'Israël pour lui préférer les païens, eh bien le mouvement pourrait aussi bien se retourner. Et si Israël ne persiste pas dans son incroyance, il sera regreffé sur son propre olivier et poussera encore mieux, et sans doute mieux que les païens. Donc Paul met en garde contre un retournement de situation toujours possible. Et je trouve qu'on pourrait aussi réfléchir à ça aujourd'hui. Et bien plus, Paul semble défendre la cause d'Israël en espérant que l'endurcissement d'Israël n'est que provisoire, et que lorsque toutes les nations auront reçu l'Évangile, Paul nous dit au verset 26 du chapitre 11, « Alors tout Israël sera sauvé. » Comment il sera sauvé, Paul n'en dit rien. Mais il explique bien pourquoi. Je vous lis les versets 28-29. « Car du point de vue de l'élection, ils sont aimés, et c'est à cause des pères. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Et Paul ajoute une explication ensuite, assez longuement, au verset 30 à 33, je vous lis aussi. « Jadis, vous avez désobéi. » Il s'adresse aux païens, là. « Mais maintenant, par suite de leur désobéissance, vous avez obtenu miséricorde. De même, eux aussi ont désobéi maintenant, par suite de la miséricorde exercée envers vous, afin qu'ils soient maintenant, eux aussi, objets de la miséricorde. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour leur faire à tous miséricorde. »
Et nous retombons là sur un argument du début de l'Épître. Tous les hommes sont pécheurs, même les Juifs. Et seule la grâce du Christ peut apporter à tous le salut. Mais quand Paul dit à présent que tout Israël sera sauvé, il ne donne pas assez d'explications cette fois pour qu'on comprenne si cela veut dire que tous les Juifs se convertiront au Christ, ou si au contraire les Juifs seront tous sauvés à cause de l'ancienne alliance sans avoir besoin de son convertir au Christ. Ce n'est pas très clair là-dessus, mais on pourrait plutôt penser qu'il souhaite qu'Israël subsiste dans son autonomie en tant que peuple distinct. Car puisque Paul a dit au verset 29 « Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables », cela semble dire que la nouvelle alliance en Jésus-Christ n'est peut-être pas vraiment nécessaire pour les Juifs. Et pourtant, puisque eux aussi sont pécheurs, comme tout le monde, ils ont besoin de la miséricorde du Christ. Alors, Paul n'est pas une contradiction près, apparemment. Tout ce qu'on peut comprendre de ce passage, c'est qu'en réponse à ses inquiétudes, donc du début du chapitre 9, il en arrive à croire au salut de tout son peuple. Comment ? Cela reste un mystère.
Oui, à première vue, Paul semble se contredire, mais ce n'est pas tout à fait mon avis, parce qu'en fait, il a une pensée paradoxale. Parce qu'il tient ensemble des contraires sans vouloir choisir ni trancher. Comme nous l'avons vu, par exemple, au début de l'Épître, quand il a dit, d'un côté, que la loi est bonne, mais quand même que c'est elle qui, en fait, engendre le péché. Donc ici, quand il dit que désormais, ce qui compte, ce sont les enfants de la promesse, et non plus ceux de la chair, mais en même temps, il dit qu'Israël, en tant que peuple, possède toujours la filiation et les alliances qui sont irréversibles. Donc c'est ça le paradoxe, deux choses différentes, opposées, mais en même temps, je trouve ça très moderne, parce que cela rejoint les questions toujours d'actualité du dialogue interreligieux. Pour réussir à faire vivre ensemble différentes religions, il faut arriver à maintenir les distinctions, à respecter les différences, mais en même temps créer des liens d'unité. Donc c'est tout un art d'arriver à accepter l'autre, à s'ouvrir à lui dans ses différences, sans pour autant se renier soi-même. Et je trouve que c'est exactement ce qu'essaye de faire saint Paul. Il reconnaît Israël dans son devenir de salut particulier, mais sans minimiser le Christ comme seul chemin de salut.
C'est effectivement le choix actuel de l'Église dans les relations judéo-chrétiennes. Et on peut penser que toutes les réflexions de saint Paul y sont peut-être pour quelque chose. Alors, il ne nous reste plus donc qu'à terminer ce chapitre 11, qui s'achève à nouveau sur l'hymne qui exalte la grandeur de Dieu. Donc je vais vous le lire quand même, les versets 31 à 35. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. Qui en effet a connu la pensée du Seigneur? Ou bien, qui a été son conseiller? Ou encore, qui lui a donné le premier pour devoir d'être payé en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire éternellement. Amen. Voilà, donc cette réflexion sur le salut d'Israël s'achève, sur le constat des limites de notre intelligence pour comprendre les mystères de Dieu. Et nous ne pouvons que nous en remettre à sa grâce. Voilà, ensuite, chapitre 12, le thème de l'épître va de nouveau changer, mais nous verrons cela lors de notre prochaine émission. Donc au revoir Catherine, au revoir chez auditeurs.
Au revoir Marie, au revoir à tous.
À bientôt.